Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. À l'occasion de la Journée mondiale des femmes, qui avait lieu cette semaine, Orient Hebdo vous propose de découvrir Fatima Zahra Berraïch. Originaire de Casablanca, au Maroc, elle est ingénieure, spécialiste en processus industriels et environnementaux. Elle a fondé Biodôme du Maroc, une entreprise qui construit des micro-solutions pour aider les paysans à valoriser leurs déchets en les transformant en biogaz et en fertilisant. Une femme dans un monde d'hommes qui s'est battue pour s'imposer et ne doit sa réussite qu'à son audace et à son savoir-faire. Une réussite remarquée par l'Union pour la Méditerranée qui lui a décerné le label « Femme d'avenir ». À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes en ligne depuis le Maroc avec Fatima Zahra Berraïch, ingénieure, docteur en processus industriels et environnementaux. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous êtes la fondatrice de Biodôme du Maroc. C'est une entreprise qui aide les agriculteurs dans leur travail quotidien. Je précise d'ailleurs que vous êtes en ce moment dans une ville qui est à peu près à 2 heures dans l'arrière-pays de Casablanca, une ville où on produit notamment du phosphate. Alors en quoi consiste précisément l'activité de votre jeune entreprise ?
Alors, notre entreprise Biodôme du Maroc est spécialisée dans la construction des installations de biogaz. Donc, on permet aux agriculteurs une solution écologique pour d'abord traiter les déchets de leur ferme et d'avoir une source d'énergie qui est le biogaz. Et de plus, un compost qui est un fertilisant biologique qu'ils peuvent l'utiliser dans leur terrain agricole.
En quelque sorte, vous construisez des installations de méthanisation agricole, c'est cela ?
Exactement, oui.
Ce sont des installations importantes dans ces fermes ?
Bien sûr, parce que d'abord, l'idée qui nous est venue pour créer et lancer l'entreprise, il est venu d'un besoin. Le besoin des agriculteurs en matière d'énergie, surtout qu'on trouve beaucoup d'agriculteurs dans notre pays, le Maroc et d'autres pays d'Afrique, qui souffrent d'accès d'énergie, surtout les régions rurales. Et de plus, il y a le problème de gestion des déchets. Alors ces deux problèmes sont pour nous une opportunité d'exploiter la science et toutes les technologies que j'ai développées dans mes études pour trouver une solution à ces agriculteurs.
Alors vous-même, vous êtes ingénieur et vous avez donc créé de toutes pièces, inventé en quelque sorte, cette installation particulière.
Oui, la technologie, elle existe depuis des années, mais ce qu'on a développé, c'est des accélérateurs biologiques pour que cette solution soit plus rentable et plus exploitable dans toutes les régions. Parce que la technologie de biogaz n'a pas connu beaucoup de développement depuis plusieurs années. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'améliorer cette technologie pour la rendre plus accessible, plus rentable et bien sûr durable.
Et alors, en quoi cette solution est-elle vraiment innovante pour les agriculteurs marocains ?
Elle est innovante dans le sens où elle permet de produire en permanence et en quantité très suffisante le biogaz et remplacer l'alternative actuelle qui est les bonbons de gaz, les panneaux solaires qui coûtent cher pour des parties, l'électricité aussi qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est d'assurer une permanence et une production qui ne s'arrête pas de temps en temps. Et c'est ça qui était le problème au début de cette technologie de biogaz. Et ce qu'on a développé techniquement, c'est des accélérateurs, c'est un mélange bactériologique qui permet de dégrader la matière parfaitement et de produire plus spécifiquement le méthane.
Cela veut dire que les agriculteurs investissent au départ, mais ensuite, le système est rentable, ils gagnent de l'argent.
Exactement. Ils gagnent de l'argent dans deux parties. D'abord, en économie d'achat de gaz pour les personnes qui achètent les bouteilles de gaz, de l'électricité, et aussi dans la production du compost, qui est un fertilisant biologique, qui peut être exploité sur place ou être vendu vu qu'il se produit en permanence, en continu. Donc on a un approvisionnement assez suffisant pour penser à commercialiser ce compost. Donc c'est une solution à double effet et double bénéfice.
Et en plus, ce serait bon pour l'environnement.
Justement, d'abord en traitant les déchets, parce que généralement, ils ne sont pas traitée. Donc, c'est la première source de dégagement des gaz à effet de serre. Donc, on collecte ces déchets, on exploite le gaz au lieu de le laisser s'échapper dans l'air. On le collecte et on l'exploite. De plus, au lieu d'acheter des engrais chimiques ou des fertilisants chimiques, on change la culture des agriculteurs dans le sens où ils peuvent utiliser des fertilisants biologiques et avoir une agriculture plus bio et plus écologique. Donc c'est toute une stratégie pour changer l'esprit et développer la société civile avec des technologies pratiques et faciles.
Fatima Zahra Berhaïch, vous développez une activité, on l'a compris, plutôt masculine dans un monde agricole qui l'est également. Quel accueil avez-vous reçu dans ce monde agricole masculin, vous en tant que femme?
Comme vous l'avez dit, c'est un domaine qui est plutôt masculin et c'est un domaine qui, surtout si on parle des procédés industriels et du secteur de l'agriculture, les deux secteurs sont très masculins dans nos pays. Et pour relever ce défi, je peux vous dire que je me suis lancée directement. Je voulais relever ce défi et je voulais prouver que la femme peut faire des changements, peut développer ses idées, ses projets dans n'importe quel environnement. Et je peux vous dire que j'étais au début pas très bien accueillie, mais après, je vous assure que maintenant, j'ai trouvé que j'ai pu faire un changement dans les esprits des gens. Juste en communiquant avec des personnes, avant, ils disaient que parler avec une femme ne peut pas nous apporter grand-chose, mais après, on a trouvé qu'il y a beaucoup de changements dans les esprits, surtout de la population rurale.
Alors, vous êtes bénéficiaire du projet Femmes d'avenir en Méditerranée, c'est labellisé par l'Union pour la Méditerranée. De quelle façon cet organisme vous a-t-il aidé?
La formation Femmes d'avenir en Méditerranée, qui a été labellisée par l'UEPM, m'a beaucoup aidée dans le sens de développer mes compétences personnelles d'abord, de communiquer avec les gens, mes compétences professionnelles aussi. Et d'avoir, parce que déjà je suis d'une formation plus scientifique, plus technique, et il m'a permis d'avoir des outils qui sont pratiques sur l'égalité, sur le leadership, et aussi sur ce que c'est le genre, l'égalité femmes-hommes. Donc je trouve que ça c'est très primordial pour les femmes entrepreneuses, pour les femmes actrices de changement, d'avoir ces notions et d'avoir ces outils pour qu'ils puissent aller de l'avant et développer leurs compétences professionnelles et personnelles aussi.
Et du côté des autorités marocaines, notamment les chambres de commerce et d'agriculture, etc., avez-vous eu des aides? Comment avez-vous été aidé, si vous l'avez été?
Oui, il y a beaucoup de soutien de toutes les parties nationaux et internationaux. Je peux vous dire que nous sommes actuellement très connus grâce à beaucoup d'organismes nationaux, bien sûr, sur la sensibilisation des actions vertes, écologiques, dans le développement économique des sociétés et de la population rurale. Donc, on est soutenu par des publicités, par des caravanes de sensibilisation aussi. Et je note bien que j'étais trop soutenue par l'Union pour la Méditerranée, qui m'a invitée à plusieurs reprises dans les rencontres qu'il organise. Et à travers ces rencontres, j'ai pu rencontrer beaucoup de partis politiques et gouvernementales qui m'ont aidé à développer ma carrière, à développer ma vision de développement de mon entreprise, bien sûr. Donc, toutes ces rencontres qu'on a pu faire avec l'UPM à Barcelone m'ont beaucoup aidé. Surtout que quand il y a des rencontres, d'échanges entre les partis privés, partis politiques et le gouvernement, ne peut que donner une synergie parfaite pour le développement de notre société.
Finalement, est-il facile d'entreprendre au Maroc en 2017 lorsqu'on est une femme?
Je peux vous dire que avant, il y a des décennies, la femme était très difficile pour elle d'aller dans l'entrepreneuriat. C'est grâce aux femmes qui nous ont ouvert les portes, que nous sommes actuellement très à l'aise dans notre activité. Donc c'est un combat qui était pris par des femmes leaders des années 90 et des années pour que les jeunes actuellement peuvent trouver un terrain qui est fertile, un terrain qui n'est pas très difficile par rapport à ce qui a été. Donc je peux vous dire que le terrain est très fertile pour se lancer dans des solutions et pour lancer surtout des solutions techniques, scientifiques et de les mettre en œuvre et en pratique réellement.
Merci Fatima Zahra Berraïch.
Merci à vous, monsieur.
Je rappelle que vous êtes fondatrice de Biodôme du Maroc. C'est une entreprise qui construit des micro-solutions éco-innovantes pour aider les agriculteurs à valoriser leurs déchets en les transformant en biogaz et en fertilisant.
Orient Hebdo sur RFI.
Figure de proue d'un rock marocain conjugué au féminin, Khamsa Batma s'est dosé entre musique arabo-orientale et sonorité des instruments occidentaux, comme dans ce morceau, Nsahel, extrait de son troisième album. Sahel signifie « je mérite », qui s'applique parfaitement à la rockeuse de Casablanca, Khamsa Batma.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, à la une de plusieurs journaux arabes, Alexandre, la situation chaotique en Libye.
Oui, et notamment en ce qui concerne la lutte pour le contrôle de ce qu'on appelle le croissant pétrolier, c'est-à-dire la région qui est située au sud du golfe de Sirte en Cyrénaïque, et surtout le port pétrolier de Ras Lanouf qui vient de tomber entre les mains des brigades de défense de Benghazi, une des nombreuses milices islamisantes qui sévissent en Libye. Alors, un revers pour le général Haftar, le ministre de la Défense du gouvernement de Tobrouk, dans l'Est libyen. Alors, un général qui est soutenu par l'Égypte et les Émirats, indiquent les journaux, alors que les milices islamisantes sont soutenues par le Qatar et la Turquie, selon d'autres journaux, puisque les journaux ne sont pas du tout d'accord et prennent parti pour l'une ou l'autre partie. Et pour compliquer encore les choses, il y a un autre gouvernement à Tripoli qui est conduit par Fayez El-Sarraj, un gouvernement qui est soutenu par l'ONU et l'Occident, alors que le général Haftar reçoit un discret soutien de la Russie. Alors les tentatives déployées par les pays voisins de la Libye, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, n'ont pas permis pour le moment de rapprocher les deux gouvernements libyens, celui de Tripoli et celui de Tobrouk.
Situation à suivre donc. Michel Paul, que se cache-t-il derrière le voyage express de Netanyahou à Moscou jeudi dernier? Les journaux auront, semble-t-il, la réponse.
Une coordination stratégique entre Israël et la Russie sur le Proche-Orient. Alors plusieurs commentateurs soulignent que le Premier ministre israélien est allé chercher à Moscou surtout la photo de sa poignée de main avec Poutine. Il veut la placer désormais aux côtés de celle prise il y a 3 semaines à la Maison Blanche avec Donald Trump. Benjamin Netanyahou, l'ami des grands de ce monde. L'Iran est déjà à nos portes, titre le quotidien Maariv, qui, comme l'ensemble de la presse israélienne, souligne la crainte numéro un d'Israël, un port maritime iranien en Syrie. Selon Haaretz, le chef du gouvernement israélien poursuit ses efforts pour tenter d'annuler l'accord sur le nucléaire iranien. Le journal libéral met l'accent également sur la nouvelle stratégie proposée par le foyer juif, le parti de l'aile droite de la coalition gouvernementale. Il s'agit d'estomper les frontières entre le Hezbollah et l'État libanais, ce qui, explique le journal, signifie qu'en cas de nouveau conflit à la frontière nord, Israël pourra riposter au tir de roquette en frappant sans discernement des cibles libanaises et non plus seulement celles qui sont liées à l'organisation chiite.
Et puis, Michel, une autre affaire fait la une en Israël. Elle a éclaté précisément lors de la Journée internationale de la femme.
Oui, le rabbin Yigal Levenstein s'en est pris au service militaire des femmes dans les rangs de Tsahal. Leur place, estime le rabbin de la colonie de peuplement Eli dans le nord de la Cisjordanie, n'est pas dans les unités combattantes. Une prise de position qui a relancé en Israël le débat, notamment en raison du style qui a été utilisé par le rabbin, qui avait déjà, il y a quelques mois, tenu des propos virulents à l'égard des homosexuels qu'il avait qualifiés de pervers.
Alexandre, à lire dans le journal Al-Hayat un article sur la foire du livre de Riyad en Arabie Saoudite.
Oui, une foire du livre qui a connu, selon le journal, son lot annuel d'incidents provoqués par les islamistes. Alors, le dernier en date, c'est l'intervention intempestive d'un islamiste en vue d'interrompre un spectacle de musique folklorique de Malaisie, la Malaisie qui est un des hôtes d'honneur de la foire de Riyad. Alors pour ceux que l'on appelle les Mohtassibines, la musique est contraire à l'islam, mais les Mohtassibines multiplient les opérations coup de poing contre tous les événements culturels qui se déroulent en Arabie Saoudite, toujours sous prétexte de défendre l'islam, indique Al-Haya. Et le journal précise qu'à la foire du livre de Riyad, ils s'attaquent aux livres qu'ils soupçonnent de ne pas être en accord avec leur vision rigoriste de l'islam.
Il y aurait également un problème avec le recensement en Égypte, Alexandre, c'est ce qu'écrivent plusieurs journaux de la capitale.
Oui, et selon le responsable du recensement qui se déroule en Égypte tous les 10 ans, le principal problème, c'est la méfiance de la population en ce qui concerne l'usage des informations qui sont demandées par les agents du recensement. En fait, les gens craignent que ces informations ne soient utilisées par le fisc ou le ministère de l'Intérieur. Et puis, de nombreux agents de recensement ont été agressés verbalement, mais aussi physiquement. Certains ont même vu leur tablette informatique volée. Alors, selon les projections qui ont été faites à partir du recensement de 2006, l'Égypte compterait aujourd'hui plus de 92 millions d'habitants, auxquels il faut ajouter 8 millions travaillant ou émigrés à l'étranger. Mais selon les journaux, le recensement pourrait faire une différence de plus ou moins 2 millions.
Michel, vous avez retenu encore plusieurs sujets qui font couler beaucoup d'encre.
Oui, la mainmise de Netanyahou sur la presse israélienne, notamment les médias électroniques, une nouvelle loi qui est encore à l'étude, mettrait en fait toutes les stations de radio et de télé sous la tutelle du gouvernement. Pour l'éditorialiste de Haaretz, Netanyahou continue de tenter de museler la presse israélienne. Et il est aussi beaucoup question de la loi interdisant l'entrée en Israël, notamment de militants d'organisations qui prônent le boycottage de produits israéliens. Une loi qui finira par se retourner contre Israël, fait remarquer un chroniqueur. Et puis vedette de la presse israélienne cette semaine, Richard Gere, l'acteur est venu pour la première de son nouveau film, Norman, un film israélien. Et il critique dans les interviews qu'il a accordées l'occupation israélienne de la Cisjordanie.
Et pour conclure, Michel, votre photo du jour.
Ce sont des photos d'enfants déguisés à l'occasion de la fête de Pourim, le carnaval juif, et des caricatures qui représentent notamment le couple Netanyahou en époux royaux qui reçoivent les cadeaux de leurs sujets, ce qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, une enquête qui, elle, est bien réelle.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation de François Porcheron que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.
L'épopée des musiques noires.